France Inter.
Ces mystérieux entrepôts, ultra sécurisés, ce sont des data centers. Problème, notre consommation de données augmente de façon exponentielle. Aujourd'hui, ces centres consomment entre 1 et 3% de l'électricité mondiale. Un chiffre qui pourrait dépasser les 10% en 2030, selon certaines études.
Au moment où vous écoutez cette émission, ce n'est plus ma voix que vous entendez, c'est sa reproduction. Une image sonore, enregistrée, stockée sur les serveurs de France Inter, quelques mégaoctets réécoutables à l'infini, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme désormais la quasi-totalité des activités humaines. Qu'on parle d'économie, de santé, d'éducation, de culture ou de loisirs, c'est toute notre vie, ou presque, qu'on transforme en code informatique, stocké dans d'immenses data centers. Ces centres qui hébergent des données, la France en compte 250, c'est le 8e parc mondial, avec une croissance exponentielle liée à l'augmentation du stockage et au développement de l'intelligence artificielle. Croissance encouragée par l'État pour attirer les grands groupes. En Ile-de-France et à Mulhouse, Microsoft vient d'annoncer 4 milliards d'euros d'investissement. À Marseille, la multiplication des data centers fait désormais de la ville la 5e plateforme mondiale. Les chiffres donnent le vertige. Dans 10 ans, l'humanité produira presque 50 fois plus de données qu'aujourd'hui en consommant toujours plus d'électricité.
Là, on est sur des projections à 2030, 2035, faramineuses. C'est l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires et demi. Est-ce qu'on doit devenir le back-office numérique de l'Europe ou pas? Il y a une réduction d'une taxe spéciale sur l'électricité pour les data centers. Enfin, ça démontre effectivement la volonté du gouvernement de les accueillir à bras ouverts.
La question centrale, c'est le coût de ces installations. Coût économique et coût énergétique. Aux États-Unis et en Chine, là où les data centers s'étendent souvent sur 300, 500 ou 700 000 mètres carrés, on atteint des consommations de 20 000 mégawatts, 25 fois plus que la France. Mais on relâche aussi des millions de mètres cubes d'air et d'eau brassés et réchauffés par leur passage au milieu des circuits informatiques et qui font monter la température au cœur des villes.
Les opérateurs qui se sont installés jusqu'à maintenant, et ça commence à changer, n'arrivent pas avec des écosystèmes. Le data center étant une sorte de grille-pain réfrigéré, ce qui chauffe, ce sont les serveurs de leurs clients. Nous n'avons pas vocation à accueillir tous les centres de données de la Terre.
C'est à Roubaix, dans le nord de la France, que commence ce reportage. Chez OVH Cloud, leader européen de l'hébergement de données, la société familiale a lancé son premier data center en 2001. Elle est désormais cotée en bourse à plus d'1 milliard de dollars et son campus ressemble à une forteresse. Data center, des données, pas données. Un reportage d'Aurélien Colli, prise de son Benjamin Reyes.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Vous badgez.
Il faudra tous les badges et toutes les pièces d'identité.
On va faire la pesée.
Alors, monsieur Aurélien Colli, vous pouvez monter sur la balance.
On vous a fait une pesée. Dans les data centers, vous allez passer dans ce qu'on appelle des SAS unipersonnels. Et donc, la pesée permet de s'assurer que vous êtes bien au niveau de poids attendu.
Donc, ça, en fait, c'est un moyen d'identification, quoi.
Sécurité périmétrique pour l'accès.
Merci. C'est draconien comme sécurité.
C'est draconien. Donc vous avez vu, vous êtes arrivé au poste d'accueil. On vous a équipé de vos moyens de protection individuels. Parce qu'on est quand même dans un univers industriel. Et pour vraiment pénétrer dans le bâtiment, dans ce qu'on appelle Roubaix 8, c'est le 8e data center, là vous allez passer à travers un SAS unipersonnel pour bien vérifier que c'est bien vous et votre poids qui passez le SAS.
Pourquoi autant de sécurité?
Parce que là, on héberge les données de nos clients et on veut que personne n'ait accès à ces données. Protection physique, donc au sens intrusion, périmétrique, etc. Il y a aussi une protection physique avec une batterie de caméras. Vous verrez que tous les recoins du data center sont équipés de caméras qui sont enregistrées en continu avec des opérateurs qui supervisent pour justement prévenir tout vol de matériel et donc vol de données, le cas échéant.
C'est considéré comme des sites stratégiques?
Ce sont des sites stratégiques et à l'intérieur des sites stratégiques, il y a des zones encore plus critiques. Notamment dans ce data center, vous n'y pénétrerez pas, vous ne pourrez pas le voir. La zone SecNumCloud. SecNumCloud, c'est le label qui a été mis en place par l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est le plus haut niveau en fait, de protection physique et logique des instances cloud qui sont hébergées.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est des endroits physiques où on ne peut pas accéder sans avoir été certifié par les autorités françaises?
Il faut être certifié par les autorités françaises. Et là, on est dans des zones qui sont un peu particulières puisque, nonobstant l'ouverture avec le badge, il faut aussi une double authentification en utilisant les empreintes digitales.
Je bouge plus. J'attends que le badge identifie mon poids. Vérifier. Voilà, ça doit s'ouvrir.
On est dans le data center. Il y a des panneaux sur le mur qui rappellent qu'il ne faut pas prendre de photos. Puis aussi un plan du site pour les évacuations et une photo aérienne où on voit tous les data centers qui sont dans la zone.
Bonjour, moi je suis Antoine Renaud, donc je suis en charge de l'activité des data centers sur la France. Donc incluant Roubaix, Gravelines, Strasbourg et des data centers sur Paris aussi. Il y a 84 collaborateurs sur l'équipe de Roubaix qui sont répartis sur trois équipes, trois grandes équipes. Donc il y a une équipe run en fait qui s'occupe vraiment d'administrer les serveurs 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc répartis en trois grandes équipes, matin, après-midi et nuit. On a une équipe upgrade donc qui s'occupe de mettre en place les serveurs qui sont construits sur le site de Croix dans les data centers. Et une équipe infra qui est assimilée à une équipe de la maintenance en fait dans l'industrie qui s'occupe vraiment de la mise à disposition de l'électricité, des moyens de refroidissement, etc.
Ça fait moins de 90 personnes pour faire tourner une dizaine de data centers. On ne peut pas dire que ce soit énorme en nombre d'emplois créés. Mais enfin, on continue, on va au bout du couloir, on va rejoindre notre guide là, Grégory Lebourg, je le vois là-bas. Il est devant une immense porte vitrée et derrière, eh ben, il y a la salle des serveurs du data center. Alors on y va, on va rentrer.
Alors là, vous avez ouvert la porte et face à nous, il y a mais des rangées d'appareils, ça bip, il y a des clignotants rouges, verts, des câbles, etc. On peut peut-être repasser juste de l'autre côté de la porte vitrée, on verra l'intérieur. Et peut-être que c'est plus facile pour les auditeurs.
Voilà, la porte vitrée s'est refermée. C'est un hangar en fait, sur 20 mètres de haut, je crois une quarantaine de mètres de large. Et en fait là, c'est comme des étagères d'un entrepôt, sauf que ne sont pas entreposés des cartons, mais des ordinateurs, c'est ça?
Ouais. C'est exactement ça. D'ailleurs, historiquement, ce site était un entrepôt de stockage, en fait. Et bien là, aujourd'hui, on est sur à peu près la même chose, mais on stocke de la donnée.
Combien il y a de serveurs, c'est-à-dire d'ordinateurs, en fait, à l'intérieur de cette pièce devant nous, de ce data center-là?
Là, vous êtes sur ce qu'on appelle un data hall, une salle serveur avec 25 000 serveurs.
25 000 serveurs, là, dans la pièce devant nous, là.
Absolument.
D'accord, alors bon, certes, un serveur, c'est pas très grand, hein, ça fait que 3-4 cm d'épaisseur, donc ils sont les uns sur les autres. Tout ça, c'est en réseau?
Tout ça, c'est en réseau, bien sûr. C'est bien une super salle informatique, mais qui est accessible du monde entier.
Quel type de données, par exemple, on peut retrouver dans une salle comme celle-là et dans les serveurs qu'il y a ici dans cette salle?
Donc ça peut être du stockage pour un particulier qui veut par exemple stocker ses photos de vacances ou ses fichiers personnels divers et variés. Puis bien évidemment, il y a toutes les applications qu'on utilise au quotidien, tous les systèmes d'information des entreprises, que ce soit côté comptabilité, gestion, chaîne logistique, système de paiement, etc., etc. Tous les usages digitaux, en fait, se retrouvent dans le cloud.
Est-ce qu'on peut aller voir comment est fait une baie, donc c'est-à-dire le support des serveurs et puis les différentes partie qu'on retrouve à l'intérieur, serveur, routeur, vous allez expliquer un petit peu tout ça?
Ce qu'on a devant nous, c'est ce qui s'appelle une baie de serveur. Il faut le voir comme une sorte de gros buffet dans lequel il y a des étagères. Et sur chaque étagère, on va pouvoir positionner un serveur. Un serveur peut être puissant comme 10 à 100 ordinateurs classiques pour donner un ordre de grandeur. Dans la colonne, vous en avez 16.
D'accord.
Vous avez 3 colonnes, 48 serveurs. Vous avez des équipements qu'on appelle des routeurs qui vont permettre de connecter le serveur au monde externe. Donc si par exemple nous sommes sur un serveur en France et que le client est localisé à Singapour, il va y avoir une définition de route qui vont lui permettre d'aller se connecter à la ressource qui est à l'autre bout du monde. C'est le protocole IP, le protocole Internet qui permet de faire ça.
Donc pour faire simple, on va dire le routeur, c'est celui qui détermine la route.
Vous avez éventuellement des disques durs qui vont permettre de stocker de manière plus statique l'information. Et vous avez bien sûr aussi de l'alimentation électrique sur tous les composants.
Quel est le lien entre mon usage personnel de l'Internet et la baie qui est face à moi avec tous ces serveurs.
Quand vous naviguez sur Internet, vous allez par exemple faire une requête, et cette requête, elle va aller chercher de l'information qui va être contenue quelque part, elle va être contenue dans le cloud, dans un data center. Et donc il faut bien non seulement router votre demande jusqu'à la destination, mais qu'après, le serveur vous renvoie l'information que vous avez demandé, que ce soit une image, que ce soit du texte, une vidéo, ou quoi que ce soit. C'est bien le serveur qui va faire tous les calculs, va aller chercher l'information dans les disques de stockage pour vous la renvoyer à travers le réseau de manière à ce qu'elle soit visible depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Donc dès lors que vous avez par exemple pris votre billet de train pour venir à Lille, vous avez dit « je veux partir de Paris à Lille à telle heure », à ce moment-là, cette requête, cette information, elle a été envoyée au serveur de la SNCF qui l'a processée pour vous renvoyer la liste des horaires disponibles, des sièges disponibles, etc. Puis vous avez fait votre choix. Puis après, vous avez été rebasculé certainement sur un autre serveur qui s'occupait du paiement. Puis après, vous avez été rebasculé sur un autre serveur qui vous a permis de télécharger votre billet.
Est-ce que c'est à peu près la même chose pour, je ne sais pas, une conversation WhatsApp, un mail qu'on enverrait, une vidéo qu'on regarderait
C'est absolument la même chose pour tout le contenu que vous allez trouver sur Internet, mais également pour effectivement des applications de réseaux sociaux ou de WhatsApp qui ont besoin de faire cette intermédiation entre les utilisateurs finaux et de processer l'ensemble des données dont vous avez besoin pour interagir.
Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'en fait, pour que le site apparaisse physiquement sur mon écran, c'est déjà des milliards de données qu'il faut reconstituer, aller chercher, remettre en forme.
C'est déjà énormément de données sur la structure même de la page que vous allez visiter, sur le fait de pouvoir mettre du visuel, de la publicité en ligne, donc du flux aussi vidéo. Tout ça, c'est de la donnée. Ça a été transcrit en données ensuite de 0 et de 1, les fameux bits. Et ça, il faut bien vous les transmettre, ou bien les stocker quelque part, les processer, vous les transmettre.
Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un de ces serveurs qui tombe en panne? Enfin, je sais pas, où il y a un problème d'alimentation électrique, où il y a une panne. On peut pas se permettre ça dans votre métier.
Non, clairement pas. La promesse du cloud, c'est que ce soit accessible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on protège l'intégrité des données. Tous les systèmes sont prévus pour avoir tout un tas de protections. Donc typiquement, en termes d'alimentation électrique, on va avoir plusieurs alimentations qui vont se secourir l'une l'autre en cas de défaillance de la première alimentation. Nous, c'est notre travail de garantir que le trafic va toujours, toujours fonctionner. Cette architecture en fait, d'interconnexion de réseau, nous, on prévoit qu'elle soit redondante, résiliente. C'est-à-dire que l'on perd une route, par exemple, transatlantique entre Londres et New York, on va avoir une route alternative entre Paris et New York sur un autre cap transatlantique. Et si on redescend à l'échelle du serveur, on aura aussi une redondance d'équipement de connectivité, de manière à ce que si un switch et un routeur tombent, un deuxième switch ou un deuxième routeur prennent en fait le relais en cas de panne matérielle.
This is the responsibility of our grand community. To make data even safer. To make the world even better. To act for the planet, for society, and impacting it positively. Stand proud, we stand loud. We are OVH Cloud.
Alors vous nous avez fait sortir du data center, parce qu'il y a des choses à voir à l'extérieur évidemment aussi.
Notamment, je vous expliquais tout à l'heure, des équipements de secours en cas de coupure intégrale du réseau. C'est ce que vous voyez là au fond, les groupes électrogènes qui sont empilés l'un au-dessus de l'autre avec donc les cheminées pour pouvoir évacuer la fumée.
C'est du gros groupe électrogène, hein, que les choses soient claires.
C'est du gros groupe électrogène, c'est un groupe qui fait 1 mégawatt. Là, en fait, vous en avez 6, parce qu'en fait, ils sont l'un au-dessus de l'autre.
D'accord, ok.
Donc, vous voyez, vous
donc
en avez 6 ici.
Deux containers à chaque fois, deux containers.
Vous en avez 8 ici. En fait, vous avez autant de générateurs que vous avez de tranches électriques, chaque tranche électrique ayant un potentiel d'un mégawatt.
Ouais.
Et là, vous avez un autre élément hyper important dans un data center, c'est que toute cette chaîne de refroidissement. Et là, les équipements que vous voyez sont ce qu'on appelle des aérothermes.
Qui sont là pour refroidir, parce que c'est ce qu'on n'a pas encore bien expliqué, c'est que dans un data center, il y a de la chaleur en fait qui est produite par l'activité électronique, tout simplement informatique. Quoi.
Oui, dès lors qu'on fait circuler un courant dans un conducteur, on va avoir un échauffement, c'est la loi de la physique. Et c'est ça aujourd'hui, ce qu'on appelle la chaleur fatale dans un data center, qu'il faut aller collecter au plus près et qu'il faut évacuer à l'extérieur du bâtiment. Si vous ne le faites pas, vous allez surchauffer le data center et en quelques minutes, vos serveurs vont tomber. Donc c'est vraiment fondamental que le système de refroidissement soit lui également opérationnel 24/7. Traditionnellement, les data centers utilisent 40% de l'énergie qu'ils consomment à se refroidir eux-mêmes.
Au total, la France compte aujourd'hui 250 centres de données, ce qui place le pays en 8e position au niveau mondial avec une consommation de 625 mégawatts. Beaucoup moins qu'en Chine ou aux États-Unis, la consommation des deux pays avoisine 15 et 20 000 mégawatts. Dans cette course folle, la France rattrape son retard. Pour des considérations politiques, économiques et stratégiques, l'État déroule le tapis rouge à ses nouvelles usines numériques. Marseille est depuis cette année la 5e plateforme mondiale des interconnexions par câble terrestre et sous-marin. L'Île-de-France est désormais le 3e pôle d'Europe derrière Londres et Francfort. C'est en Seine-Saint-Denis qu'on retrouve Aurélien Collier.
Interception sur France Inter.
La plaine Stade de France, site du Stade de France. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles.
Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje.
Bonjour, Aurélien Collier, mon enregistreur.
Très bien. Je suis Cécile Diguet, je suis urbaniste à l'Institut Paris Région. Je dirige le département urbanisme, aménagement et territoire.
Vous vous êtes en particulier penché sur la question des data centers en Ile-de-France. Et on est à Saint-Denis, pas très loin du Stade de France, ancien quartier a priori industriel qui a été entièrement réhabilité et au milieu duquel on trouve des data centers.
Tout à fait. Alors la plaine Saint-Denis, c'est une histoire bien particulière en Ile-de-France. Beaucoup de friches, des très grandes parcelles et encore beaucoup de puissance électrique parce qu'il y avait des usines. Donc à la fin des années 90, les data centers trouvent des opportunités foncières, beaucoup d'électricité et vraiment des parcelles pas chères. Donc on a un développement qui a démarré dans ces années-là et qui s'est poursuivi jusqu'à récemment avec par exemple la construction d'un gros data center à La Courneuve, pas très loin d'ici.
Mais juste... Il y en a combien autour de nous par exemple hein?
Autour de nous, un rayon un peu large, il y en a une quinzaine, ce qui est quand même beaucoup hein, pour le territoire.
On en voit juste au bout du petit chemin où on voilà. est, là, hein, un énorme, vous m'avez dit, en venant à peu près 10 000 m².
On doit faire à peu près 10 000 m². Alors ça, c'est un data center qui s'est pas trop mal inséré, parce qu'il n'est pas très haut, et il est assez, on va dire, connecté un petit peu au tissu urbain alentour, mais il pose quand même question, parce que juste autour de nous, on a des logements, puisqu'il y a un gros besoin dans la métropole du Grand Paris, et en région Île-de-France, et du coup, bah, ça pose cette question de conflit d'usage potentiel. Est-ce que c'était le meilleur endroit pour faire du stockage de données numériques? Et aujourd'hui, il faut voir que les derniers data centers qui arrivent, les plus gros, qui s'installent plutôt aux franges de la métropole, ils font plutôt 100 000, 120 000 m², donc on est vraiment sur un facteur 10, donc c'est énorme, et c'est plutôt dédié au cloud. Et en 2014, il y a l'Agence locale de l'énergie qui a aussi commencé à alerter en fait, sur la question de la consommation électrique des data centers et sur leur développement non régulé.
Le département de la Seine-Saint-Denis, ça a vraiment commencé. Là, on est plutôt sur l'Essonne aujourd'hui, c'est ça?
Aujourd'hui, là où les data centers vont plutôt s'installer, font des demandes, c'est le nord de l'Essonne, limite Seine-Saint-Denis, autour de Melun, Villaroche, Évry, Lys par exemple, ces secteurs-là, qui sont des secteurs où on trouve des friches beaucoup plus grandes et des capacités d'extension, y compris sur des terres agricoles qui sont encore permises. Et donc des bâtiments qui peuvent être très très grands, ce qui est aussi intéressant pour, on va dire, massifier le stockage et le traitement de données pour ces opérateurs. L'intérêt pour les opérateurs de venir s'installer en Ile-de-France, c'est plus que le système électrique français est stable. Et comme il a un mix énergétique qui est très décarboné grâce au nucléaire, en gros, tous ces opérateurs peuvent afficher un résultat assez positif. Par ailleurs, il y a une réduction d'une taxe spéciale sur l'électricité pour les data centers en particulier. Donc en plus, ils ont une sorte de niche fiscale spécifique juste pour eux. Elle est assez questionné aujourd'hui parce que les data centers, on va dire, ont des marges de profit qui sont très élevées. Donc on se demande si ça se justifie encore. Enfin, ça démontre effectivement la volonté du gouvernement de les accueillir à bras ouverts. RTE travaille sur des projections à 2030, 2035 de consommation des data centers qui font plus de 40 mégawatts. Donc c'est déjà des gros. Ce qu'ils ont dans les tuyaux de signer avec des gros data centers, c'est l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires et demi. Et ce qui pourrait...
3 réacteurs nucléaires et demi pour approvisionner en électricité les data centers qui ont prévu d'ouvrir dans les prochaines années.
D'ici 2030, exactement. Là, on est sur des projections faramineuses. Est-ce qu'on doit devenir le back-office numérique de l'Europe ou pas? Ou est-ce qu'on se dit une partie des data centers sont intéressants pour notre économie, mais intégrons-les beaucoup mieux? Et ça, il y a des villes comme Amsterdam qui ont fait des moratoires pour après mieux réguler. Il y a des villes comme Stockholm qui ont trouvé des deals, on va dire, énergétiques intéressants. Donc nous, on veut aller vers plus de collaboration et plus de régulation.
Chaque jour en France, nous envoyons des millions d'emails, de photos, parfois à l'autre bout du monde. Il y a de très fortes chances pour qu'ils aient transité par Marseille, devenu en quelques années l'un des principaux centres névralgiques d'Internet au monde.
Je suis à Marseille et j'ai découvert ça en préparant le reportage. Marseille, 5e plateforme mondiale d'échange de données. Ils étaient 6e, 7e il y a encore à peine un an ou deux. Alors la raison, ce sont les câbles sous-marins haut débit qui partent, qui arrivent ou qui passent à Marseille. Il y en a 16 qui relient donc l'Europe à l'Afrique, au Moyen-Orient et à toute l'Asie. Il y a même un câble direct qui fait Marseille-Singapour. Évidemment, ces câbles sont raccordés à terre à des data centers. Ils ont poussé comme des champignons ici ces dernières années et ça commence à grogner. Je vais voir l'un des premiers data centers implantés en ville en 2015, à 10 minutes à peine du Vieux-Port. Je suis dans le quartier de la Joliette. Je vais voir un data center qui s'appelle MRS1. Et normalement, je vais retrouver devant un membre de l'association France Nature Environnement qui essaye de se mobiliser sur la problématique de ces data centers, certes indispensables, mais néanmoins énergivores. Bonjour monsieur. Aurélien Colli, France Inter.
Enchanté.
Stéphane, c'est ça ?
Stéphane Copé.
Oui. France Nature Environnement.
Bouches-du-Rhône, tout à fait.
Voilà, on est face à un magnifique data center de Marseille.
Voilà, qui ne paraît pas du tout. Bâtiment qui n'est pas moche, mais qui, quand on s'en approche, est hermétique et surveillé de partout. C'est le cœur de nos données.
Et de vos préoccupations.
Et de nos préoccupations environnementales, tout à fait. Ici, nous sommes au centre de Marseille, dans un quartier qu'on a requalifié Euromed 1, c'est-à-dire un quartier où toutes les constructions ont été refaites depuis une dizaine, quinzaine d'années. Donc on a vu la construction d'un des premiers data centers de Marseille. On entend très peu parler de permis de construire, d'autorisation d'exploiter, et on découvre souvent dans la presse après coup qu'effectivement il y a eu un premier, un deuxième, un troisième, un cinquième data center à Marseille. Alors on pourrait dire que c'est anodin, ça ne l'est pas vraiment. D'abord c'est du foncier, et puis surtout impactant sur le plan de la consommation d'eau et d'électricité. Chaque data center est équivalent d'une petite ville moyenne. Donc à l'échelle de Marseille, c'est comme si on avait presque un deuxième petit Marseille dans Marseille, rien qu'avec l'ensemble des data centers qui viennent se construire. Donc après on nous dit, du coup il n'y a plus assez d'électricité, d'énergie, donc il faut construire une nouvelle ligne à très haute tension, au travers de la Camargue, de la Croix. Donc ça émeut énormément donc les populations, les associations, les riverains, les gestionnaires de parcs naturels. Voilà. Est-ce qu'il faut continuer à implanter des data centers sur Marseille ? On ne peut pas le nier, c'est un facteur de développement économique. Et puis, je veux dire, ce serait de la grande mauvaise foi que de s'opposer, je dirais, brutalement et violemment à tout data center, sachant qu'on est tous utilisateurs d'électronique, d'ordinateurs, de bases de données, etc. Donc c'est maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une autre répartition ? Et puis surtout, une vision un peu plus globale, en termes de consommation d'énergie, de consommation d'eau, de foncier, etc. Donc ça questionne vraiment par rapport aux équilibres économiques, y compris dans une ville comme Marseille, dont on connaît les inégalités par ailleurs et les besoins de ressources financières.
Tu veux boire quoi, toi ? Oh,
Bonjour, je suis Laurent Lardy, je suis adjoint au maire de Marseille en charge de l'économie, de l'emploi et du tourisme durable. Lorsque nous arrivons à la tête de la municipalité en 2020, il y a un fort développement des data centers sur le grand port maritime de Marseille, avec une certaine opacité pour nous, parce que le grand port c'est l'État, et puis également des projets nombreux sur le reste de la ville. Donc on interroge beaucoup sur ce sujet, la consommation de foncier économique, qui est rare sur la ville de Marseille, consommation électrique, c'est-à-dire que si on alimente l'ensemble des demandes de data center, on aura des problèmes également à fournir la puissance nécessaire pour les nouveaux réseaux de bus électriques, pour les branchements à quai des navires sur le grand port de Marseille, donc avec des arbitrages. Voilà. Il y a la question de la consommation de l'eau qui a été un temps réglée avec une rivière souterraine qui a permis de créer un flux assez important, mais maintenant le flux qui a été autorisé est consommé déjà par les data centers existants. Bon, le data center étant une sorte de grille-pain réfrigéré. Ce qui chauffe, ce sont les serveurs de leurs clients. Cette fonction-là, elle ne produit rien directement sur la ville, puisque aujourd'hui, c'est un monde qui est totalement financiarisé, et j'allais dire très normalement, puisque aujourd'hui, c'est derrière des fonds de pension, une puissance financière qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est très bien pour cette économie-là. Mais effectivement, ça produit une pression qui se développe à très grande vitesse à Marseille, d'où notre décision de prendre une initiative municipale qui a pris la forme d'une commission municipale dans laquelle nous recevons les porteurs de projets pour qu'ils nous décrivent la totalité de leurs projets, pour qu'ils nous décrivent ses caractéristiques, y compris souvent en matière de création d'emplois et consommation électrique. Voilà.
Vous avez ce sentiment qu'il a fallu forcer un peu le dialogue ?
Oui, il a fallu forcer le dialogue, il a fallu demander la transparence et l'information, il a fallu s'armer pour que nous-mêmes on soit capable de juger des éléments techniques qui nous étaient présentés. Voilà, on est dans un cadre aujourd'hui de dialogue, et il y a deux effets positifs très directs. Le premier, c'est que d'abord, aujourd'hui, on sait qu'il y a un vrai pôle qui va se créer du côté d'Aix-en-Provence, qui va pouvoir accueillir des fermes beaucoup plus importante en termes de puissance. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait sur les projets de data center à Marseille, et ceux qui nous sont présentés sont de taille moins importante que ceux qui nous avaient été donnés il y a encore un an à peu près. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la création d'emplois, et donc c'est ce que nous demandons aux opérateurs.
Aujourd'hui, nos usages numériques génèrent toujours plus de données. Pour les stocker en toute confiance, choisissez Data4, opérateur français de data center, et sa démarche éco-responsable pour vos data centers en Europe.
J'ai laissé l'adjoint au maire de Marseille devant la mairie et je suis en train de faire le tour du vieux port. Je vais littéralement de l'autre côté. Je vais au Rolling Club. Ce soir, il y a le cocktail estival de France Data Center qui est organisé là-bas. C'est l'association des professionnels du secteur qui a été créée il y a quelques années pour organiser la filière en France. On retrouve tous les métiers et pas mal de grands noms, on va dire, de l'industrie traditionnelle française. Par exemple, pour la construction et le BTP, Bouygues, FH, Vinci, EDF, Engie et Total, pour ce qui est fourniture d'énergie, Legrand, Schneider pour les installations électriques, RTE, Orange, Telenco pour les réseaux de fibre optique ou réseaux électriques, et aussi Dalkia pour la chaleur, le refroidissement. Dans cette association, on a aussi des banques, Société Générale et BNP Paribas, j'imagine que c'est pour le financement. Et puis, on a aussi Google Cloud et Microsoft qui sont dans cette association. À côté, des opérateurs français, il y en a pas mal. Des très connus comme OVH Cloud qu'on a vu à Roubaix. Des moins connus comme par exemple Euclide qui sont présents à Besançon, à Villeurbanne. Voilà le cocktail France Data Center. Un public plutôt masculin. Et voilà la terrasse avec une vue magnifique sur le vieux port. Allez, je retourne à l'intérieur. Je vois qu'il y a un grand écran qui s'est affiché. Plein de chiffres. Je crois que c'est les résultats de la filière data center qui sont présentés ce soir.
Bon, alors, on est à Marseille.
Et celui qui parle, si je ne me trompe pas, c'est Olivier Micheli, qui est le président en fait de France Data Center, et c'est normalement lui que je viens voir juste après.
Donc bravo aux Marseillais et merci de nous accueillir, passez une très bonne soirée, il y a plus de chiffres, c'est fini.
Marseille est une place centrale, c'est un hub. Les chemins du numérique, l'ensemble des câbles, empruntent les anciennes routes du commerce. Et de Marseille, en fait, vous allez passer par la Méditerranée, le canal de Suez, et vous allez toucher le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est pour relier l'ensemble de ces places majeures avec le continent européen. Et après, vous avez des câbles terrestres qui rejoignent Paris. Et cette fameuse route Marseille-Lyon-Paris, et après, à partir de Paris, toucher l'ensemble des principales villes européennes. On parle souvent de souveraineté numérique. Il est très important que ces infrastructures stratégiques, avec les données des citoyens et des entreprises et des collectivités, soient hébergées sur le territoire national. La donnée, c'est en fait le nouveau capital. Une entreprise qui n'a plus accès à ces données, ou si les données sont corrompues, c'est toute l'entreprise qui est menacée. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est très important que vous puissiez maîtriser votre environnement numérique. Est-ce que la France veut dépendre au niveau de ses infrastructures numériques d'un pays tiers? La réponse est claire, c'est non. On utilise de plus en plus le numérique, on consomme du cloud, et avec l'intelligence artificielle. On aura besoin de plus en plus de data centers dédiés à ce type d'usage.
Alors, le côté un peu obscur, la consommation d'énergie.
Bien sûr qu'on est conscient, qu'on est électro-intensif, bien conscient. Et la preuve, au niveau mondial, sur la décennie 2010, la consommation électrique des data centers n'a augmenté que de 6%, alors que l'augmentation des serveurs a augmenté de 600%. On a travaillé sur les serveurs pour qu'ils puissent monter en température. On a tout un ensemble d'innovations pour limiter la consommation électrique, notre bilan carbone, notre consommation d'eau et donc notre impact environnemental de manière générale.
À l'échelle de la planète, les data centers consomment l'équivalent de 82 millions de radiateurs numériques de 1000 watts allumés en permanence. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, ils vont devoir s'adapter. Et c'est à Val-de-Reuil, devant le centre de données d'EDF, inauguré en 2010, qu'on retrouve Aurélien Colli. Plus de 10 000 serveurs, 5 ou 6 mégawatts de consommation pour sécuriser notamment le fonctionnement du parc nucléaire. Grâce à un tunnel de 400 mètres de long et la récupération de la chaleur, le data center va bientôt chauffer un entrepôt pharmaceutique de Charlotte Laurent, architecte et chef de programme de CFAO Healthcare, spécialisé dans l'exportation de médicaments vers l'Afrique.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Vous voyez l'angle vitré ?
Oui.
C'est l'accueil.
D'accord.
Vous allez plus loin, ouais. Vous garez en marche arrière obligatoire. Après, vous passez l'accueil pour le badge.
D'accord, très bien. Merci, monsieur. Double grille avec sas pour la voiture. Vous se garez en marche arrière. Alors voilà notre interlocutrice, c'est ça ?
Bonjour.
Bonjour madame.
Enchantée.
Voilà, c'est vous qui êtes donc de l'autre côté, à l'autre bout du tuyau.
De l'autre côté, voilà, au bout du tuyau, au bout des presque 400 mètres linéaires, je crois, de réseau. Et je vous propose qu'on termine les derniers mètres ensemble.
C'est quoi comme société ?
Alors c'est une société de logistique, distribution de produits médicamenteux et pharmaceutiques. Donc on a 40 000 m² à peu près de stockage grande hauteur. Et puis après à peu près 4 000 m² de bureaux.
Et c'est l'intégralité des bâtiments que vous ambitionnez de chauffer en partie.
Toute la partie
avec
stockage. Oui, avec cette simple boucle d'eau chaude en fait. Et que ça permette en hiver de pouvoir chauffer, puisque l'ensemble du bâtiment est sous température dirigée, donc entre 15 et 25.
Est-ce que c'est des méthodes de chauffage que vous connaissiez, comme ça, de récupérer une partie de la chaleur fatale des data centers pour alimenter des réseaux de chaleur ?
Non, pas du tout. Pas du tout, on était plutôt dans un système de climatisation chauffage assez classique, hein, et les machines restent classiques. Il a fallu juste un peu les pimper avec un accessoire, mais l'ensemble du réseau est plutôt basique, enfin comme ce qu'on a l'habitude de voir dans l'ensemble des entrepôts.
Voilà, on arrive en haut de la petite montée, c'est pour ça qu'on est essoufflé.
Voilà, c'est cette porte.
Donc c'est l'arrière d'un bâtiment d'usine. Là, il y a beaucoup moins de sécurité, il n'y a pas de sas, de passe et tout.
Donc le local est simple.
Ah ouais.
On reconnaît là, on reconnaît un peu le type d'équipement, des ballons, des pompes. Les deux arrivées, hein, c'est une boucle fermée d'eau chaude qui arrive entre 30 et 35 degrés. Et à partir de là, elle part donc, dans les différents entrepôts, les différents magasins.
Et derrière vos entrepôts
de tableau, donc là, vous rentrez
énormes
dans,
voilà. Ah oui, d'accord.
Donc c'est du.
Ça fait combien
stockage,
ça fait c'est colossal.
Cette
hein.
Première cellule fait 6000.
6000 m² donc, oui. Devant nous, avec des étagères.
Tout à fait, du stockage de palettes, avec une zone expédition d'un côté, une zone réception de l'autre. Et tout l'ensemble de ces zones-là doit être climatisé, chauffé, avoir une température constante entre 15 et 25 degrés. Donc nos exigences, on va dire, au niveau pharmaceutique, hein, nous imposent. On a des sondes qui sont posées un petit peu partout. On doit le chauffer et le climatiser toute l'année.
On voit là juste les deux tuyaux qui viennent du data center.
Voilà. Et donc ce réseau de tuyaux va parcourir l'ensemble de l'entrepôt et des différents magasins pour venir après apporter la chaleur quand il faut.
Comment ça se passe? La chaleur n'est pas gratuite quand même. De toute façon, c'est moins cher que de chauffer par l'électricité
tout
ou quoi que ce soit.
Ce que je vais vous dire, c'est que c'est gagnant-gagnant. Enfin, c'est un partenariat, donc tout a été réfléchi. Nous, en tout cas, ça nous permet de pouvoir maîtriser et de voir l'avenir en termes de coûts.
C'est beaucoup plus avantageux que les fluctuations du marché de l'énergie.
On voit au niveau de l'inflation et de l'augmentation exponentielle en fait, des coûts. Ça, nous, de notre côté, c'est maîtrisé.
Voilà. Ça veut dire, oui, que finalement, avec ce système, vous avez une stabilité
dans
la production de chaleur pour les futures années, parce que ça ne bougera pas, ça.
Tout à fait.
Retour à Paris, ou plutôt juste à côté de Paris, à Montrouge. Je suis devant le siège de Carnot Computing. C'est une start-up française qui est spécialisée dans le calcul informatique. C'est un aspect du cloud, des échanges de données qui ont lieu tous les jours à travers le réseau mondial via les data centers. On l'a vu par exemple avec EDF en Normandie. Alors la spécialité de Carnot Computing, c'est de mettre à disposition de ses clients de la puissance de calcul. Ça produit de la chaleur, plus encore que des serveurs classiques dans les data centers. Alors pourquoi ne pas en faire des radiateurs ou plutôt des chaudières qui seraient alimentées par de la donnée?
Sélectionnez le nom, puis appuyez sur le bouton Appel. Appel en cours.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Aurélien, Colli.
Naya, bonjour. Ouais. Écoutez, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui.
C'est gentil, merci beaucoup.
Donc moi, je m'appelle Naya Etchikopar, je suis responsable communication chez Carnot.
Vous êtes combien à peu près aujourd'hui dans la société ?
Aujourd'hui, on est plus de 80 salariés. Voilà, c'est une équipe qui grossit.
Ça veut dire que l'activité grossit ?
Oui, l'activité grossit, il y a une demande, des enjeux environnementaux qui sont de plus en plus visibles, qui ont un impact pour nos clients. Donc,
Alors, vous avez développé au départ un radiateur, et puis vous avez basculé ces dernières années sur une chaudière. Alors on dit quoi, chaudière numérique, c'est comment ça s'appelle?
C'est ça, on peut appeler ça une chaudière numérique. Elle intègre des processeurs informatiques à l'intérieur. Et notre spécificité, c'est qu'on va valoriser la chaleur dégagée par ces serveurs pour chauffer de l'eau, pour vulgariser un petit peu des mini data centers qui sont installés sur les sites consommateurs de chaleur.
Alors on vous suit.
Allez. Voilà.
En fait, c'est l'ancien parking du bâtiment, ça.
Hein, c'est ça. Quand même, joliment réaménagé.
Alors, avec un atelier, avec plein de machines, voilà, et au milieu.
Clément Pellegrini, je suis le directeur technique de Carnot.
Et nous avons devant nous votre produit phare, c'est ça?
Exactement, donc la chaudière numérique.
Ça fait à peu près quoi, 1,20 m de haut, un gros rectangle en acier, gris.
Et donc je vais vous montrer l'intérieur de la bête. Donc c'est là où on retrouve en fait les serveurs de calcul. Et donc le travail de Carnot, ça a été d'inventer ce système de plaques en aluminium et en cuivre qui vient faire contact avec le serveur qui chauffe. Et du coup après il y a un échange thermique qui se crée entre l'eau qui circule à l'intérieur de ces plaques en aluminium et le serveur.
Alors, c'est pas du tout comme un ballon d'eau chaude, c'est-à-dire que ça circule?
Pas du tout, voilà, l'eau elle circule, donc là vous voyez sur l'entrée de la chaudière il y a deux tuyaux, donc c'est là où va rentrer l'eau froide. Au contact des serveurs elle va se réchauffer et donc elle va ressortir par le deuxième tuyau beaucoup plus chaude que ce qu'elle est entrée. Et donc cet échange thermique, c'est ça qui permet aussi au serveur de lui être maintenu à une température basse qui lui permet de fonctionner dans les meilleures conditions.
Une unité comme ça, là, comme celle qu'on a devant nous, ça se met où? Parce que chez les particuliers, il n'y a pas besoin de chauffage tout le temps, par exemple
Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la base load, qui est la partie constante et permanente du besoin de chaleur. On a une installation en Finlande, par exemple. L'été, le besoin de chaleur, c'est 2 MW. Et l'hiver, c'est 24 MW. Et donc nous, on va venir déployer jusqu'à 2 MW parce qu'on est sûr que ces 2 MW, ils vont fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et voilà toute l'année. Et après, il y aura toujours le système de chauffe qui était déjà là avant qu'on vienne s'installer qui va venir compléter en fait ces pics de consommation. On a une installation par exemple à Nantes où on a déployé 3% de la puissance installée. Donc les 97% autres, c'est une chaudière à gaz traditionnelle. Mais par contre, comme nos 3% ils fonctionnent en permanence, on assure 40% de la production annualisée du bâtiment. Dans la chaudière, il y a en fait toute la partie supervision donc on retrouve à l'avant du système. Et donc voilà, donc là il y a toute la partie électronique et tous les capteurs qui nous permettent en fait à distance, en temps réel, de surveiller la chaudière.
Pas oublier quand même qu'à l'intérieur, il n'y a pas que de la chaleur et de l'eau, il y a du calcul, de l'informatique, et c'est ça qui est important, quoi.
Exactement, c'est ça qui est important, parce qu'en fait c'est ça qui est la source d'énergie de notre système, c'est des calculs intensifs, donc c'est des ordinateurs très puissants, très haut de gamme, qui sont dédiés à vraiment faire des calculs, des simulations numériques le plus rapidement possible, le plus vite possible. Tout ce qui est animation 3D, les dessins animés, etc., c'est extrêmement consommateur de puissance de calcul. On travaille beaucoup aussi avec les banques, et on travaille aussi énormément avec tout ce qui est simulation numérique dans l'industrie. C'est extrêmement consommateur de puissance de calcul. Et donc, une majorité de nos ingénieurs en fait, travaillent sur ce qu'on appelle la plateforme de calcul. Les clients vont nous donner ce qu'ils veulent effectuer comme calcul. Et nous, ensuite, on va prendre toutes ces données qu'ils nous ont transmises, on va les envoyer sur les différentes chaudières, on va effectuer le calcul pour le client et ensuite, on va lui restituer.
Donc, en gros, vous avez votre réseau que vous avez installé. Vous allez distribuer, en fait, ces besoins de calcul en fonction des besoins de chaleur. C'est un peu ça. Voilà.
Tout est automatisé par des logiciels informatiques. Nous, on fournit à nos clients ce qu'on appelle des interfaces de programmation. C'est ce qui permet à un client qui a son propre logiciel de venir le connecter à la plateforme de calcul Carnot et du coup sur ces systèmes qui permettent de le faire de manière plus responsable d'un point de vue environnement.
Pour conclure ce reportage, je vais me tourner vers un collectif qui s'appelle Green IT. Leur cheval de bataille, c'est la sobriété numérique. Le fondateur s'appelle Frédéric Bordage, il vit à Grenoble. Alors pour l'interroger, je vais éviter un aller-retour en train Paris-Grenoble. On va faire une interview en duplex grâce à nos collègues de France Bleu Isère. Moi, dans un studio de France Inter à Paris et lui, dans un studio de France Bleu à Grenoble. Moins de transport donc, moins d'empreintes carbone. Sauf que, entre Frédéric Bordage à Grenoble et moi à Paris, il y a des câbles en fibre optique et des data centers pour les milliards de données qui reconstituent nos voies en temps réel à 700 km de distance. Pas sûr donc que ce duplex soit si écolo.
Allons-y. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est bon, voilà, comme ça. D'accord. Super.
Bon.
Est-ce que je vais juste remettre le micro en face. C'est bon là pour vous?
J'attends un petit signe de mon technicien qui me dit que c'est parfait. C'est super. Ah, bah, c'est comme super. Si on était en face l'un de l'autre.
Ouais, ouais.
Première question assez basique. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, votre prénom, votre nom et puis la fonction sous laquelle vous voulez être présenté?
Frédéric Bordage, je suis le fondateur du collectif Green IT qui réunit les experts de la sobriété numérique en France. Il y a énormément de progrès et d'innovations technologiques qui ont eu lieu pour essayer de réduire les impacts environnementaux des data centers. C'est indéniable. Ce qui est sûr, c'est que l'impact des data centers continue inexorablement à augmenter de façon très rapide dernièrement avec les objets connectés et le développement de l'intelligence artificielle. Il n'y a qu'en prenant le problème à la source, c'est-à-dire nos besoins en fait numériques, qu'on pourra réduire le nombre de data centers. Et le juste milieu, en fait, on va le trouver au travers d'une démarche, une posture qu'on appelle la sobriété numérique et qui vise tout simplement des usages raisonnables. Dans le TGV, je vais télécharger préalablement le film que je veux regarder plutôt que d'aller me connecter en 5G puis après aller finalement chercher ce film dans un data center. Donc il faut avoir une forme d'hygiène numérique finalement et c'est ça en fait qui va nous permettre d'avoir un usage plus frugal, plus sobre du numérique et donc de pas perdre les avantages du numérique, mais de réduire nos impacts au passage.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de sobriété qui relève des data centers?
Pour que ça soit toujours disponible, quoi qu'il arrive, on va dupliquer vos données, on va dupliquer les traitements que vous réalisez sur vos données, sur 2 à 7 data centers. Et là, il va falloir être un peu plus raisonnable du côté des constructeurs des data centers, mais aussi des consommateurs, il va falloir accepter qu'un service puisse être indisponible pendant 30 secondes, 3 fois par an, ce qui permettra d'enlever 2 ou 3 data centers par rapport aux architectures actuelles.
On a le sentiment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont prises par ce secteur des data centers pour afficher des vraies évolutions et une volonté de faire mieux dans le refroidissement des serveurs. Mais on entend aussi des voix qui considèrent que tout ça, c'est un petit peu, en fait, aussi du greenwashing, puisque la réalité, c'est que c'est vraiment au niveau de la consommation de l'Internet qu'il faudrait pouvoir intervenir.
On n'est pas complètement dans le greenwashing, mais clairement, on est quand même sur la justification de progrès qui ont été réalisés et qui sont réels. Mais on se cache aussi un petit peu au niveau de l'industrie du numérique, hein, derrière ces progrès qui ont été réalisés, pour ne pas parler du sujet de fond qui est, il y a un moment, va falloir simplement être plus sobre dans nos usages, concrètement. Mais ça n'arrange pas les opérateurs data center. Évidemment, ça n'arrange pas leurs clients, les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, etc., qui nous vendent des heures de numérique qu'on passe devant leurs réseaux sociaux, par exemple.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi les forfaits illimités qui sont offerts par les opérateurs?
Clairement, aujourd'hui, pour réduire les impacts environnementaux des data centers, il faut commencer à faire payer le prix réel. Cette transparence, cette gratuité, le caractère illimité des forfaits, le cloud, donc l'informatique dans les nuages, nous donne l'impression que c'est un peu open bar, on en a autant qu'on veut, et que si on en a autant qu'on veut, c'est que c'est pas si grave d'un point de vue environnemental. Alors qu'en fait, nos impacts environnementaux ont triplé entre 2010 et 2024, ce qui est absolument gigantesque. Et on devrait avoir ce débat aujourd'hui, c'est un débat sociétal, c'est un débat politique au sens noble du terme. On ne va pas abandonner tous les usages, mais par contre, il faut vraiment re-hiérarchiser en urgence, vraiment tendre vers un usage plus sobre du numérique.
Data Center, des données, pas données, un reportage d'Aurélien Colli, prise de son Benjamin Reyes, réalisation Gaëtan Colli, assisté de Martine Messonnier, mixage Valérie Lavalard. Abonnez-vous au podcast de l'émission sur l'appli Radio France et pour en savoir plus, rendez-vous sur franceinter.fr.